Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors pour éclairer ce voyage intérieur, nous avons le plaisir d'accueillir une femme dont la voix accompagne ceux qui cherchent à comprendre ce que leur âme murmure à travers le silence. Elle nous ouvre maintenant son regard entre expérience, intuition et transformation profonde. Après ce voyage introductif à travers les croyances anciennes, les principes de l'hypnose régressive et les mystères des mémoires de l'âme, il est temps maintenant de donner la parole à une professionnelle qui accompagne au quotidien celles et ceux qui souhaitent explorer leurs profondeurs intimes. À notre invitée est hypnothérapeute, auteure, conférencière, Catherine Roumanoff-Lefebvre. Elle s'intéresse depuis de nombreuses années à l'hypnose spirituelle et à la régression dans les vies antérieures. Dans un échange riche et éclairant, elle nous expliquera comment se déroule une séance, ce que l'on peut y découvrir et ce que la change dans une vie.
Bonjour Bénédicte.
Eh bien déjà, merci de venir dans Un autre regard, ça fait plaisir et j'espère qu'on va apprendre plein de choses et que ça va aussi persuader les dernières personnes qui voilà, qui ont des doutes, qui ne savent pas trop.
Alors moi, ce n'est pas du tout mon but en fait de rameuter le plus de monde sur l'hypnose spirituelle et sur la croyance que les vies antérieures existent. En fait, moi, c'est le côté thérapeutique du processus qui m'intéresse.
Alors, comment déjà est-ce que vous êtes venu à l'hypnose ?
Alors, d'abord, l'hypnose, c'est un état naturel. Et donc, en tant qu'enfant, ben, j'étais dans la lune très souvent. Je me réfugiais dans un état de ressourcement, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment un mouvement naturel et on fait tous ça. C'est-à-dire qu'on est tous plongés dans nos pensées. C'est un état naturel, l'hypnose. Donc, tout le monde fait de l'hypnose, même sans le savoir.
D'accord.
Et enfant, d'ailleurs, mes parents m'avaient offert une séance d'hypnose. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est pour moi habituel et normal, en fait.
D'accord.
Voilà. Et l'hypnose spirituelle, en fait, j'ai découvert ça une fois que je suis devenue hypnothérapeute. C'est vraiment une branche de l'hypnose. Et c'est des protocoles spécifiques qui nous conduisent au-delà du parcours classique de la personne, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va prendre du recul pour regarder les choses de plus loin.
Qu'est-ce qui s'est passé comme déclic pour vous dire, tiens, je ne vais pas me contenter de la vie actuelle, je vais remonter plus loin? Est-ce qu'il y a un événement marquant, une expérience dans votre parcours?
En fait, mes parents étaient familiers avec la culture indienne. Et pour la moitié de l'humanité, aujourd'hui, les vies antérieures, c'est quelque chose qui existe. Enfin, ça fait partie de la culture et ce n'est pas quelque chose de discutable. Alors nous, ici en Occident, en France, il y a de plus en plus de personnes qui croient à l'existence des vies antérieures. Mais en soi, y croire ou pas, pour moi, ce n'est pas la question, ce qui compte de nouveau.
C'est l'expérience thérapeutique.
Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut en... À quoi ça sert? Comment on va se plonger dans une vie antérieure? Comment on va accéder à une narration, en fait? Et qu'est-ce que ça va nous procurer aujourd'hui? En considérant que c'est évidemment que la vie d'aujourd'hui qui compte. Et comment on peut l'améliorer aujourd'hui.
Comment ça peut faire des leviers pour changer des choses qu'on a envie de changer,
exactement,
des choses comme ça.
Ouais, exactement, des leviers très importants et des changements qui ne sont pas limités à l'objectif qu'on pourrait avoir, mais qui ont un impact sur plusieurs niveaux de la vie, en fait.
D'accord. Alors, est-ce que tout le monde peut revivre une vie antérieure sous hypnose ou est-ce qu'il y a des blocages?
Alors, donc... pour préciser, donc évidemment, le protocole s'appelle régression dans les vies antérieures, mais j'oserais quand même revenir là-dessus parce que j'accueille des personnes qui y croient, qui y croient pas. Moi-même, j'ai pas aucune certitude là-dessus. Et on va développer une narration. Mais là, la façon dont vous vous exprimez, Bénédicte, c'est vous considérez que ça existe. On dit
ouais.
Est-ce que tout le monde est capable d'y accéder, etc. Comme si on ouvrait la porte. Des vies antérieures. Donc, alors, tout le monde est capable d'entrer en hypnose. Et ce qu'il faut savoir, c'est une fois qu'on est en hypnose, si le thérapeute fait une suggestion de régression, de vie antérieure, de n'importe quoi, eh bien, la personne en hypnose est suggestible et va accéder aux réponses. Ce n'est pas pour ça que c'est une preuve de quoi que ce soit. Et c'est important de le savoir parce que finalement, en hypnose de spectacle, quand on voit
Mesmer, la poule, ouais.
Ouais, voilà, de faire le kangourou ou la poule, la personne va accéder a la possibilité de le faire. Après, elle choisit si elle le fait ou pas, mais elle va accéder à la possibilité de le faire. Donc là, c'est pareil. On accède à la possibilité d'une narration qui se passe dans un autre temps, dans une autre biographie. Hein, donc, on n'est pas la même personne. Mais ce n'est pas pour ça que ça existe. Donc, pour simplifier, on dit que c'est des vies antérieures, oui. Mais voilà, on ne sait pas en fait.
Après, j'ai envie de dire qu'importe. Je trouve que l'important, c'est ce qu'on en retire. C'est les indices qu'on a pu en récolter, les métaphores qu'on a pu comprendre. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Après, la preuve ultime, à la limite, j'ai pas envie de dire qu'elle est un peu secondaire, quoi. Moi, je trouve que c'est toujours...
Il y a Ian Stevenson aux États-Unis, qui est un psychiatre américain, qui a fait vraiment des recherches toute sa vie, mais sans utiliser l'hypnose. Hein. Lui, c'était basé sur des témoignages d'enfants, comme si les enfants, finalement, pouvaient avoir des réminiscences extrêmement fortes, des détails... Quand un enfant s'exprime en disant « Tu sais, avant, c'était pas toi, ma maman, elle s'appelait Marlène, par exemple. » Et les enfants peuvent avoir des souvenirs très forts. Et après, ça se referme. C'est comme si... Voilà,
après, il y a tous les filtres cognitifs qu'on nous met et tout ça qui font que je trouve...
Et puis des interdictions, voilà, ça n'existe pas. Voilà.
C'est ça, on referme un peu le
donc,
truc.
Donc, Ian Stevenson, il a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle « 20 cas suggérants ». La réincarnation, il raconte vraiment 20 cas d'enfants, dont certains justement sont indiens, et qui vont dire, voilà, moi j'ai été tuée, j'étais assassinée, j'étais dans tel village, il s'appelait comme ça, et vont donner suffisamment de détails si on leur pose des questions, en fait. Si on leur dit, tais-toi, retourne dans ta chambre, ça n'existe pas.
Ça va s'arrêter là,
voilà, ça s'arrête là. Mais si on est, ah oui, alors, ok, ta maman, elle s'appelait Marlène, elle était comment, etc. Et si on développe ce dialogue en considérant ce que dit l'enfant, eh bien, on peut arriver, peut-être, à beaucoup de détails. Et donc, Ian Stevenson, après, il a vraiment mené une enquête... à la Sherlock Holmes pour retrouver les villages,
les indices,
les histoires. Et les enfants ont pu donner des détails que personne ne connaissait. Enfin, juste une sœur, peut-être, une tante. Un enfant pouvait connaître de la personne, mais qui n'était pas du tout de notoriété publique. Donc, il y a eu quand même des coïncidences extrêmement fortes.
Ouais, c'est passionnant. Donc, pour avis aux amateurs.
Voilà.
Alors, que viennent chercher les personnes qui vous consultent pour ce type d'hypnose? Est-ce qu'il y a des profils particuliers ou vraiment il y a des raisons, j'imagine, qui sont multiples?
Alors moi, je préfère quand c'est moi qui propose, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que la personne, elle vient avec un problème, elle vient donc avec un objectif, même si elle ne connaît pas l'objectif, mais en tout cas, il y a une conversation au départ qui permet de déterminer ce que veut la personne pour elle. Et puis, on peut, quand la personne a un parcours extrêmement chargé, extrêmement complexe, extrêmement avec des événements bouleversants, et vraiment, c'est une vie enfin, très chargée, je dirais. C'est bien, en fait, finalement, quelque part, de prendre du recul.
Ce que j'allais dire, ça met à distance. On n'est plus dans la vie actuelle, donc ça permet un petit peu de liberté.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, au lieu d'être enfermé dans sa propre vie, le fait de s'extraire dans un autre espace-temps, on va l'inconscient, enfin moi je le vois comme ça, l'inconscient ou la conscience supérieure ou l'intelligence suprême, je ne sais pas, va nous guider dans une histoire qui va nous apporter soit des ressources, c'est-à-dire ça va être une histoire réparatrice, une histoire qui va donner un sens, une histoire qui va donner de la force, du courage, des compréhensions. Et ça, à ce moment-là, le thérapeute n'a quasiment rien à faire qu'à essayer de dérouler l'histoire avec le consultant, ou alors ça va être au contraire un drame absolu qui va se passer dans une vie donc supposée antérieure, et donc là le thérapeute va être beaucoup plus actif. Moi je suis pas du tout partisan de d'être juste témoin de la vie et que la personne fasse tout le travail. Elle n'est pas forcément en position de le faire.
Elle n'est pas forcément outillée pour.
Ouais. Elle n'est pas outillée pour. Et donc, le thérapeute spécialiste des vies antérieures, il a quand même plein de ce que j'appelle des resolutions. C'est-à-dire que quand on tombe sur un nœud émotionnel, un drame absolu, eh bien, on peut en tirer des compréhensions, éventuellement le rescénariser, comprendre ce que ça veut dire et se déplacer dans la même vie ou dans d'autres vies d'ailleurs et aller chercher des ressources pour que quand le consultant revienne à la vie ordinaire, il a pu vivre des émotions et des émotions réparatrices.
Ouais, tout un programme, c'est beau.
Oui, c'est tout un programme,
ouais, c'est
tout un art de faire en fait.
Ouais.
Et c'est bon, c'est une forme d'hypnose qui a fait ses preuves, hein, qui existe depuis les années 70. Et au départ, ça a été justement ce qu'on appelle des régressions spontanées. C'est-à-dire, c'est juste en posant une question, mais une question en hypnose devient une suggestion. On dit, et comment ça s'est passé la première fois? Est-ce qu'il y a eu une première fois à cette façon de faire, à ce schéma? Est-ce qu'il y a eu une première fois? Donc, la personne peut remonter dans son enfance ou peut très bien faire comme un saut. Voilà.
C'est passionnant. Est-ce que vous avez constaté des transformations concrètes chez certains patients après?
Bah oui, c'est
J'espère.
C'est le but. C'est le but.
Parce que là, il ne se passe rien. Non, j'imagine effectivement que c'est, ça doit être très émotionnel déjà.
Alors, ce qui est très curieux au niveau des émotions, ce qui est très intéressant au niveau des émotions qu'on travaille sur les vies antérieures, c'est que si la personne est plongée, par exemple, dans un drame, elle va se mettre à pleurer très fort. Et donc, quand on change d'endroit, puisqu'on a la possibilité en tant que thérapeute de vraiment faire des suggestions qui sont accueillies, et disant tu vas 10 minutes après. Tu vas 2 heures plus tard, ou tu vas quand c'est terminé, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'information de ce qui s'est passé, mais pas que la personne
revive.
Des souffrances, ça sert strictement à rien. Donc moi, je fais partie des thérapeutes qui s'amusent à faire souffrir les patients en disant il faut qu'il y ait une libération émotionnelle. Non, moi, je trouve que l'émotion est simplement porteur d'une information, et puis à ce moment-là, on va changer d'endroit, on va prendre de la distance pour avoir l'information et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet événement. J'ai oublié la question.
Oui, non, j'étais dire, parce qu'on avait constaté des transformations concrètes chez certaines personnes.
Bien sûr. Donc, en fait, les transformations, elles peuvent être entièrement, elles peuvent être radicales. C'est-à-dire, on a une difficulté, par exemple, on s'auto-sabote, etc. Et tout d'un coup, c'est absolument terminé. Voilà. Quand le truc est résolu, il est vraiment résolu pour toujours. C'est pas un entraînement où il faut continuer par auto-hypnose ou je sais pas quoi. Non. Quand le phénomène est résolu, il est vraiment résolu.
Ça, c'est déjà... La compréhension est là, je pense que ça... Pouf.
Alors, c'est même pas de l'ordre de la compréhension. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la transformation. Et après, on comprend peut-être comment ça s'est produit. Mais c'est vraiment une transformation qui se fait de façon nette. En fait. Et puis, il y a aussi des transformations qui se font de façon plus profonde et plus souterraine. C'est comme si à l'intérieur de nous, la texture de notre être avait un petit peu changé. Peut-être même si on avait des rêves qu'on n'avait pas réalisés. Une fois, on s'était dit, tiens, peut-être que je pourrais faire ça, des pensées qui... Et puis, tout d'un coup, elles prennent plus d'importance et ça peut changer un peu l'orientation de la vie. Donc, c'est comme des... Très puissant. Donc ça sert, moi je trouve que c'est très utile dans deux cas, donc soit pour les personnes qui ont une vie extrêmement chargée et du coup on ne sait plus par quel boulet prendre tellement qu'il y a de difficultés, de problèmes. Et donc du coup, avec ce voyage dans les supposées vies antérieures, l'inconscient va nous guider quelque part. C'est-à-dire qu'il va nous dire, c'est ça le problème en fait, ou il va aller à l'urgence d'un problème. Ou alors, au contraire, il va aller dans une vie très ressourçante et la personne va être transformée parce qu'elle va tout simplement se sentir mieux et que quand on se sent mieux, forcément, les problèmes qu'on a nous paraissent moins envahissants.
On voit autre chose, ça coupe, ça fait mieux.
Ou alors, dans un autre état d'esprit, c'est plutôt pour les personnes qui sont un peu perdues, qui vivent leur vie, mais qui ne savent pas trop, est-ce qu'elles veulent faire ça, est-ce que c'est ça, et qui sont un peu flottantes finalement par rapport à leur existence. Et donc là, ça peut leur donner comme une orientation. C'est-à-dire, il se passe une transformation intérieure qui peut être assez profonde et assez souterraine, dont on ne voit pas l'effet tout de suite, mais qui, au fil des semaines, au fil des mois, vont orienter leur vie un peu comme une évidence. Et donc, moi, je trouve que ce sont des protocoles qui sont extrêmement puissants. Donc, il faut que ce soit extrêmement bien fait, avec des thérapeutes extrêmement compétents, qui soient vraiment capables de faire face à toute situation. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre les choses de façon très détachée et d'autres qui vont les vivre vraiment en étant acteur principal des vies antérieures. Et donc, du coup, ils vont vivre vraiment toutes les émotions très fort. Il faut vraiment bien accompagner les personnes. Et c'est pour ça que je suis prof pour les hypnothérapeutes, pour les gens déjà formés en hypnose.
Je pense qu'il ne faut pas se lancer comme ça.
Oui, oui.
C'est tellement profond, enfin, ça implique tellement de choses. Voilà, je pense qu'il faut faire bien attention. Ça, on parlera tout à l'heure de l'aspect, on va dire, éthique aussi, de faire bien attention si on veut, on ressent l'appel, on va dire, et qu'il faut choisir la bonne personne et qu'il y a des bons protocoles et pas partir comme ça. Voilà.
Pour moi, c'est pas. Pour moi, je prends pas les personnes qui disent qu'elles veulent explorer. Un peu,
c'est par pas curiosité.
C'est pas une prestation. Moi, j'aime quand ça s'inscrit dans une démarche de thérapie. Un vrai questionnement et pas juste tiens, je fais ça comme je me ferais une couleur chez le coiffeur. C'est pas drôle, quoi.
Ouais. Il y a certaines mémoires passées, est-ce qu'elles reviennent-elles plus souvent ? Parce qu'il y a des motifs récurrents, des périodes historiques dont on vous parle beaucoup, des types de décès, des schémas karmiques que vous trouvez reviennent beaucoup.
Non, moi je trouve que c'est au contraire extrêmement divers, extrêmement varié. Chaque personne a une histoire très particulière. J'ai pas de redondance, il n'y a pas de redondance. Effectivement, un petit peu comme une légende urbaine.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Bien sûr, une vie antérieure, j'étais Cléopâtre, Napoléon, etc.
Napoléon, oui, c'est ça, toujours les mêmes d'ailleurs.
Toujours les mêmes.
Les mêmes qui, d'ailleurs, quand certains médiums vous disent avoir des contacts, c'est toujours avec Cléopâtre, oui. Napoléon, Jules César.
Alors, par rapport à ça, donc il y a des gens qui expliquent ça en disant que c'est pas Napoléon lui-même, mais c'est les Grégores de Napoléon, etc. Bon, moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que, si on veut être Napoléon, on a un désir de puissance, peut-être.
Il y a des choses cachées, une lecture à en faire derrière. Pourquoi on a choisi, ce personnage, effectivement,
On est en train de rechercher quelque chose, un sentiment intérieur particulier dont on a besoin, en fait. Après, évidemment, si ça prend cette forme-là, pourquoi pas. Mais effectivement, ça m'est arrivé d'être tombée déjà sur Ramsès II, mais j'en ai pas tiré la conclusion que...
C'était Ramsès II.
C'est ça. Voilà. C'est pas la conclusion que j'en ai tirée. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas.
Justement, c'est une question de lecture symbolique, donc c'est vrai qu'il faut un peu voir au-delà... Ça prête à sourire, mais derrière, effectivement, il y a plein de symboles de tous ces personnages un peu. Dans leur histoire, il peut y avoir aussi peut-être des liens récurrents avec l'histoire de cette personne, de cette personnalité, la nôtre, des choses qui font écho peut-être.
Ou alors on peut considérer que tout est relié, quand on est sous forme d'âme, quand on arrive dans la grande conscience après la mort, on est tout à la fois. Donc pourquoi pas ramener.
Qu'on soit en partie, ramener une partie de Ramsès II en nous, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Selon vous, qu'est-ce que nous apprennent ces régressions sur la nature de l'âme, en tout cas ? Grande question philosophique, mais...
ça me pose plus de questions, non pas sur la nature de l'âme, mais sur la nature de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour nous dans cette vie ? Par exemple, quand on arrive dans une vie antérieure, on n'a pas une vue globale, comme on lirait une biographie de quelqu'un. En fait, on arrive dans une scène. On arrive dans une scène qui peut être calme ou une scène agitée ou pourquoi pas la scène de la mort. Et puis, on a comme ça comme une première information. Et puis, on va se déplacer dans la vie et aller dans des événements importants de la vie. Et donc, du coup, comme la personne ne va pas, ça ne dure pas non plus 5 heures. Donc, en fait, on va à l'événement le plus important de cette vie, etc. Et du coup, ça pose la question... pour nous-mêmes dans cette vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que profondément on recherche, quel est notre désir le plus profond, comment on fait face à lui et comment on se dirige dans notre vie pour atteindre nos objectifs, qu'est-ce qu'on rencontre, comment c'est au niveau de l'amour, comment c'est au niveau de l'épanouissement personnel, etc. Donc ça, moi je trouve que ça pose beaucoup, beaucoup de questions sur la vie. Et puis quand on fait aussi ce protocole des vies antérieures, on va visiter le moment de la mort. De quoi on meurt, qu'est-ce qui se passe, quel est notre sentiment, est-ce qu'on est entouré, pas entouré, et qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc, dans les vies antérieures, on va mourir à un moment donné. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe au niveau de la mort et quel est notre sentiment après. Et du coup, quand on a fait ça plusieurs fois, quand on est mort plusieurs fois, en quelque sorte, on a moins peur de la mort.
Ouais, c'est un petit goût de déjà-vu.
Voilà. Donc, il y a plein d'aspects... il y a plein de bénéfices dans ces régressions de vie antérieure.
Alors, on disait tout à l'heure qu'il faut avoir affaire à des professionnels, parce qu'effectivement, c'est très important que la personne soit formée et qu'elle soit finalement parée à un peu toutes les éventualités. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant d'entamer une telle démarche ?
En fait, c'est un peu la précaution, c'est plus le thérapeute qui doit la prendre. C'est-à-dire, souvent, une personne qui dit « moi, je veux une vie antérieure », cette personne qui dit ça, qui dit « je veux faire ce protocole-là », elle a un but, elle a un objectif. Elle a le but qu'elle dit, d'exploration, etc. Mais elle a plutôt un agenda caché, c'est-à-dire qu'elle a souvent un autre but, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut vraiment arriver...
À décortiquer quelles sont ses vraies raisons et les vraies peurs qui peuvent éventuellement l'animer, ou des envies, des objectifs qu'elle voudrait atteindre, dont elle n'ose pas forcément...
Le dire, en fait. Ouais. Donc, elle a cet agenda caché, et donc, elle va, quelque part, elle vient vérifier quelque chose. Elle vient vérifier... ça me rappelle une séance où il y a une personne qui est venue, qui a fait vraiment beaucoup de kilomètres pour venir me consulter. Et son agenda caché, c'était qu'elle avait dans cette vie actuelle quelqu'un qu'elle considérait comme son âme sœur. Et cette âme sœur, qui était un homme dont elle était amoureuse, n'était pas forcément d'accord pour être son âme sœur. Comme souvent.
Ouais.
Et donc, elle s'était mis ça en tête parce qu'elle l'avait rencontrée quand elle était plus jeune. Et puis après, elle l'avait revue, etc. Et puis finalement, elle s'était dit, tiens, c'est mon âme sœur. Et donc, elle était venue vérifier si c'était son âme sœur. Et si c'était son âme sœur, qu'est-ce que ça voulait dire aujourd'hui? Parce que quelqu'un dit, ok, je viens vérifier si c'est mon âme sœur. Ok, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en fait? C'est si c'est son âme sœur et que cette personne ne veut pas d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire?
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'elle va changer de vie pour voir si ça sera mieux dans la vie d'après?
Donc, il y a plein d'interrogations, mais ça, on peut tirer plein de ficelles.
Il peut y avoir des enjeux majeurs, en fait. Donc, il faut vraiment bien décortiquer qu'est-ce que vient faire la personne.
En réel, oui.
Et là, finalement, elle avait visité plusieurs vies où cette personne était son âme sœur et ça n'avait jamais pu se produire avec cette personne parce qu'elle était religieuse, il était prêtre, parce que... Il était pris, elle était prise, etc.
Il y avait toujours quelque chose.
Il y avait toujours quelque chose. Et à chaque fois, dans ces vies-là, elle était morte. Elle était morte pour lui, en fait, en quelque sorte. Et donc, elle s'est dit, bon, bah, comme je suis morte pour lui pendant plusieurs vies, dans cette vie-là, je vais faire autre chose. Je vais faire autrement. Je vais vivre.
C'est ça, oui.
Donc,
on va casser le schéma.
On va casser le schéma. Bah, alors, elle aurait très bien pu dire, bon, bah, je suis morte... dans différentes vies avec lui, bah, je vais continuer à faire ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment des précautions très importantes.
Oui, bah oui, c'est ça. Non pas les enjeux, c'est dans un peu l'inconscient collectif. Voilà, c'est encore un peu. Alors, on remonte dans une vie antérieure, effectivement, on est au Cléopâtre. Ça fait du bien à l'ego, mais voilà mais ça peut prêter à sourire derrière, mais je pense que les gens ne sont pas assez conscients des répercussions qui peuvent être derrière. On fait des découvertes sur soi, ça c'est sûr. On peut effectivement comprendre des choses, mais c'est un peu, faut être prêt aussi à en tirer des enseignements. Quoi.
En fait, le danger, finalement, c'est de prendre les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire de les prendre littéralement. C'est-à-dire, au lieu de dire « oui, je suis Cléopâtre, je suis exceptionnelle », c'est « qu'est-ce que ça veut dire de moi, de vivre cette vie de Cléopâtre? De quoi j'ai besoin? Comment j'ai besoin d'être reconnue? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Mon ego a besoin d'être nourri, mais c'est comment je peux le nourrir dans cette vie-là? Est-ce que, justement, j'ai été... au contraire, pas reconnu, humilié. Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer là-dedans? Donc voilà.
Et puis il y a son destin aussi à Cléopâtre, effectivement. Et son suicide aussi. Donc ça interroge aussi sur du coup.
Moi, je voyais plutôt les bains de lait.
Ouais, les bains de lait. Ouais, les bains de lait, les les dates, les.
Et son joli nez. Mais voilà. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait?
Bah oui, c'est ça. Donc d'où l'importance, déjà d'y aller. Suite à une réflexion et pas se lancer comme ça en disant tiens, je suis curieuse.
Oui, mais en fait, souvent, la curiosité affichée en fait, cache une vraie demande. Mais par contre, il faut être en contact avec cette vraie demande. C'est très important parce que finalement.
Je pense que rien déjà que de la verbaliser, déjà, de prendre conscience que ce qu'on dit être de la curiosité, qu'il y a quelque chose d'autre derrière, le fait de le verbaliser déjà à une autre personne, je pense que. Et de s'entendre, s'entendre se le dire finalement. Du coup, quelque part, je pense qu'il y a déjà un déclic.
Se le révéler à soi.
Ouais, c'est ça. Finalement. Je pense qu'il y a deux premiers déclics déjà qui arrivent là où on se dit tiens, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça et plouf, il y a quand même un petit truc qui se passe déjà là, je pense.
Exactement. Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que je veux me prouver? Voilà.
Alors, quel message vous pourriez transmettre à ceux qui sont un peu dans ce cas-là, qui se posent des questions, qui s'intéressent à ça, qui ressentent un genre d'appel, en fait, sans oser franchir le pas?
Comme je vous disais, moi, je ne suis pas là pour, pour faire de la publicité à tout va. C'est un peu une démarche très personnelle, en fait. Ce qui compte effectivement dans la séance, c'est donc de vivre ce qu'on va vivre, mais c'est l'intégration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de notre expérience. C'est un peu comme toute expérience de la vie, n'importe quelle expérience dans la vie actuelle, c'est-à-dire il nous arrive quelque chose, mais qu'est-ce qu'on en tire? comment on interprète les choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en fait? Et donc, cette deuxième partie est très importante.
Est-ce que ça va être un blocage ou au contraire, est-ce que ça va me pousser à, sur d'autres choses, à un peu me dépasser?
Et donc, moi, cette deuxième partie, qui est justement l'intégration, je la fais toujours dans la continuité de la séance en hypnose, en fait. Et du coup, en hypnose, on a plus de vastitude.
L'attitude, à l'intérieur de nous,
et on a plus de possibilités.
On a moins de barrières.
On a moins de barrières, et donc on peut comprendre les choses et les intégrer profondément.
Alors, vous avez écrit plusieurs livres sur l'hypnose. Alors, il y en a un qui est très accessible, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'hypnose spirituelle et 7 voyages essentiels, seuls ou accompagnés. Donc ça, c'est vraiment un livre, je trouve qu'il est très bien expliqué. L'approche est très simple, c'est intuitif.
Oui.
Donc, moi, j'ai trouvé ça, voilà. C'est une collection, de toute façon, que j'adore, parce que voilà, j'ai sur plusieurs sujets, et je trouve que...
C'est au lotus et l'éléphant.
C'est ça. Une première, on va dire, si vous mettez un premier pied, et puis un peu plus, ben, je trouve que c'est nickel, quoi. Enfin...
J'ai aussi écrit un roman qui s'appelle « Juste après mon dernier souffle », qui est disponible en poche aux éditions Le Duc. Et donc, ça, c'est bon, c'est un roman, donc c'est le parcours d'une hypnothérapeute. Et je l'ai inscrit dans l'histoire comme si c'était elle qui avait découvert un peu ce protocole d'hypnose régressive. Et donc, il y a des séances aussi qui sont...
Donc, ça donne encore d'autres pistes, mais sous un autre biais.
Un aspect plus ludique, voilà.
C'est ça. Et le journal d'une hypnothérapeute qui est sorti aux éditions Erol. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors ça, c'est mon best-seller. Il est sorti il y a quelques années maintenant. C'est un livre qui est tout dessiné. C'est vraiment un cours d'hypnose, c'est-à-dire en le lisant... Et c'est assez ludique parce qu'il y a plein de petits dessins. Eh bien, ça nous apprend qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça se passe dans un cabinet de consultation, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on va entrer en hypnose dans cet état modifié de conscience.
Tout un programme. Alors, est-ce que vous avez des projets en cours, des conférences ou des formations à venir? On va parler actu.
Oui, alors en fait, en ce moment, je donne des... cours d'auto-hypnose, donc c'est sur des dimanches, ça dure une journée, de 9h30 à 17h30, et donc j'apprends aux personnes qui s'inscrivent à entrer en hypnose, donc là c'est vraiment ouvert à tous.
Voilà. Ah, très bien.
Donc ça c'est à proximité d'Angers, et puis sinon je donne des cours donc, dans des écoles d'hypnose pour apprendre aux hypnothérapeutes ces protocoles de régression dans les vies antérieures, et puis en actu... je suis aussi artiste.
Voilà, c'est ça. On va parler moins de l'hypnothérapeute, mais de la femme, de l'artiste.
Donc, voilà. Je fais des portraits essentiellement féminins. Et c'est un peu comme des autoportraits, c'est-à-dire je raconte dans ces portraits un peu mes sentiments intérieurs, mes états d'être, mes questionnements. Et on peut voir une expo, ça sera ouvert les 7 et 8 juin. À l'occasion d'une visite d'un jardin privé qui s'appelle la Chêneraie à Saint-James-sur-Loire, qui ouvre pour la manifestation nationale et rendez-vous au jardin. Et donc, j'expose à cet endroit-là quelques portraits textiles, voilà, qu'on peut retrouver aussi sur mon site.
Oui, j'ai vu ça, moi j'adore. Je suis fan, je trouve que... Il y a tellement de choses à regarder, il y a plein de couches, et puis on a l'œil qui est attiré par certains motifs et pas d'autres. Donc moi, je me demande toujours, qu'est-ce qui... Puis on peut avoir, je pense que... 4 personnes regardent et 4 personnes vont avoir peut-être une lecture différente aussi sur l'œuvre. Ça interroge un peu sur soi-même aussi.
Et ben c'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de détails dans ces tableaux, des motifs. L'œil se perd et ça crée comme une transe, en fait.
Ouais.
Donc, on peut entrer en hypnose devant mes tableaux. C'est fait pour ça. Et puis, du coup, ça plonge à l'intérieur de soi parce que, justement, le personnage exprime quelque chose et nous, on va chercher comme une résonance à l'intérieur de nous. Donc, on fait « Mes tableaux se veulent » comme des voyages hypnotiques. Voilà, donc
Tout un programme donc, à découvrir le 7 et 8 juin pour ceux qui veulent avoir un aperçu et s'auto-hypnoser devant un portrait textile.
Exactement.
Ça peut être une expérience nouvelle, moi j'ai envie de dire. Et puis il y a également, alors il y avait, donc c'était ce week-end, il y avait aussi...
Oui, c'était la même chose, c'est un jardin qui ouvre 2 fois par an pour le neurodon et pour les rendez-vous
jardins. Ça c'est important effectivement pour le neurodon, donc ça permettait, j'espère que vous avez eu du monde.
Oui, un petit peu malgré le mauvais temps.
Bah oui, là...
J'espère qu'il fera beau le 7 et 8 juin.
Faut espérer, il y a encore un mois devant nous, on va croiser les doigts, on va peut-être finir par avoir du beau temps.
Absolument.
On ne sait pas. Eh bien écoutez, très bien, est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitez partager?
Oui, je voudrais parler un petit peu d'une question du karma, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le karma comme une fatalité.
Qu'ils ne voient que négativement. Ouais.
Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? Enfin, dans la philosophie indienne, etc., c'est comme si on avait hérité... de certaines difficultés, de certains empêchements. Et moi, j'aime beaucoup la phrase d'une certaine Florence Wagner qui dit « Le karma, c'est comme si on avait hérité d'une paire de chaussures trop petites. » Alors évidemment,
Ça fait mal aux pieds.
Ça fait mal aux pieds, voilà. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. On peut s'en délivrer, on peut changer de paire de chaussures, on peut les jeter à la poubelle, on peut les agrandir, on peut les faire à son pied. Voilà, il y a des milliards de possibilités. Donc, le message, c'est finalement, si vous avez un problème, si vous avez une difficulté, si vous avez même l'impression que c'est une fatalité, eh bien, ce n'est pas une. On peut toujours s'en défaire.
Voilà. Ouais, on peut toujours revoir un petit peu le contrat et puis se libérer de tout ça.
Exactement.
Bah oui, c'est vrai que c'est important. Ah, c'est une version très occidentale de penser que le karma est forcément négatif et puis que bah, du coup, il faut qu'on paye pour des choses alors qu'on
peut
avoir...
Oui, parce qu'en fait, dans l'idée, finalement, au départ, c'est plus l'idée de vivre toutes les phases d'une même expérience. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on fait dans les régressions des vies antérieures. C'est-à-dire que on peut avoir été une victime, on peut avoir été un bourreau, on peut avoir été toutes sortes de choses et toutes sortes de gens, mais c'est comme si on vivait différentes phases d'une même expérience. Et ça, c'est vraiment aussi l'idée que c'est notre... Alors, pour être un peu plus ésotérique...
on fait pas ça du tout ici.
Que ça serait notre âme, qui viendrait... Ça serait une part de la conscience qui viendrait vivre une expérience humaine, selon la phrase attribuée à Teilhard de Chardin. Et non pas nous qui faisons une expérience spirituelle, mais c'est notre âme qui vient faire une expérience dans l'incarnation. Et donc, qui vient vivre différentes phases de la même expérience. Et donc, c'est...
un regard global. Hein,
et voilà, pas donc on est finalement porteur d'une conscience, on va dire, universelle. Et c'est pour ça qu'on peut avoir été aussi Cléopâtre.
Il ne faut pas se mettre de barrière, mais voilà. Mais on peut aussi avoir été le crocodile de Cléopâtre, on n'en sait rien. Mais...
Bah souvent, les gens, ils n'ont pas forcément des vies passionnantes. Hein,
oui.
Si on a été serviteur et qu'on a fait la vaisselle
après,
pendant...
il n'y a pas besoin... Enfin...
40 ans.
Je pars du principe, on n'a pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour pouvoir en tirer des leçons. On a tous vécu, enfin tout le monde, même le plus petit balayeur a vécu des choses.
Des apprentissages.
Ouais, c'est ça, des apprentissages et il y a des choses à apprendre. Il y a peut-être des fois un petit peu plus de sagesse même que...
Mais bien sûr.
Donc c'est vrai que, ouais. C'est un peu comme quand on fait sa généalogie finalement. On remonte le fil et puis on se dit, voilà, je vais tomber sur un duc, un machin, un truc. Et puis finalement, non. Moi, je suis sur 400 ans de personnes qui ont travaillé la Terre. Donc, du coup.
Bien sûr, c'était quand même.
Mais avec quand même une galerie de personnages et puis aussi des événements et des choses qui sont.
Il y avait plus d'agriculteurs, de serviteurs, de petits métiers, plutôt que de rois et de reines, hein, de toute façon.
C'est ça. Donc, du coup, c'est pas pour ça que. Puis c'est toujours même, mes ancêtres, toujours des histoires quand même rocambolesques à leur niveau. Donc, quoi. Ouais. On peut avoir des surprises à ce niveau-là à tout moment.
Bien sûr.
Alors, je vous remercie de votre visite.
Merci, Bénédicte.
En tout cas, je suis sûre que ça a été. Moi, c'était passionnant. On a appris plein de choses, on a discuté de plein de choses. Ça va nous emmener des pistes de réflexion. Alors. Pour tous ceux et celles qui se posent un peu les questions là-dessus, c'est pour ceux pour qui c'est acquis, ceux qui ne savent pas trop quoi. J'espère qu'en tout cas que ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre visite.
Merci.
Et puis, ne manquez pas de nous tenir au courant si vous avez d'autres actualités. On sera ravis de les relayer.
Très bien. Merci à vous.
Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité sur hypnothérapie-angie.com et sur art.romanov.com. Et on la remercie vivement de son intervention.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.